l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Bonjour Benoît Biteau.
Bonjour à vous.
Alors Benoît Biteau, on va parler avec toi de plusieurs choses. D'abord, on va parler de ton parcours de paysan. Mmh. On va parler un petit peu de ton livre aussi que tu as fait. Et après, on va parler de ton rôle en tant que politique, puisque tu es, à l'image de José Bové d'ailleurs, tu es à la fois paysan et homme politique au niveau européen. Toi, tu étais ingénieur agronome, je crois, au départ. Mmh. Tu es né en 67, on va le dire, pour à peu près situer. Et donc, raconte-nous un peu cette histoire. Quelle ferme tu as connue et qu'est-ce que tu en as fait?
Déjà, avant que je devienne moi-même pilote un peu de cette structure, j'ai connu les deux époques, celle de mes grands-parents qui avaient acheté cette structure en 1931, qui était tournée sur une agriculture, vers une agriculture vivrière, un peu autarcique, qui avait compris la complémentarité des territoires parce qu'ils produisaient sur la plaine des volailles, des brebis, des chèvres, des vaches, du lait, de la viande, des céréales, un peu de viticulture, mais qui profitait aussi de la complémentarité qu'on a la chance d'avoir sur ce territoire avec la zone humide de marais où ils élevaient des huîtres, des poissons, il y avait aussi une dimension de cueillette et de pêche. Enfin, donc là, ils étaient vraiment dans des logiques autarciques, mais qui avaient le mérite d'être efficace en termes de productivité, finalement, hein, ils vendaient le surplus, mais c'était pas efficace, mais surtout, c'est que on parle aujourd'hui beaucoup d'approche globale, et cette approche globale, elle était au rendez-vous, c'est-à-dire que sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la qualité des eaux, de l'air, de la nourriture qu'on consommait, de la relocalisation, qui est un sujet important, du climat, c'était optimum. Et donc, moi, j'ai vu disparaître cette logique-là de développement sur la structure familiale, quand mon père s'est installé au début des années 60, parce que c'était la période, hein, et moi je jette la pierre à personne, je cherche pas des coupables ou des responsables ou des têtes à mettre sur le bio, parce que la première qu'il faudrait que je mette, ce serait mon père, et ce serait dommage parce que ça reste mon père, et il y a beaucoup d'affection entre nous. Mais il a adhéré à ce modèle qu'on appelle productiviste, intensif, moi je l'appelle industriel même, à ce que les politiques publiques, les initiatives économiques, hein, des coopératives, qui ont créé des filières pour ces productions extrêmement importantes, puisque mon père a choisi de se lancer dans la monoculture de maïs irrigué, qui apportait un débouché intéressant aussi pour l'agriculteur. Donc il y avait plein d'enjeux, il y avait l'effacement de la pénibilité du travail, il y avait un nouveau débouché économique qui était plutôt florissant, la simplification aussi, parce que quand on ne fait qu'une production, c'est beaucoup plus simple de maîtriser cette production que d'en avoir de multiples. Et donc il est entré complètement là-dedans, et il a fait ça pendant 35 ans, enfin il a été agriculteur pendant 50 ans, mais les 35 dernières années de son activité, c'était vraiment la monoculture de maïs irrigué. Et puis moi pendant cette période-là, j'ai suivi une formation agricole, un bac scientifique, deux BTS, un diplôme d'ingénieur agro, effectivement, une vie professionnelle très, très riche, hein, où j'ai travaillé dans le secteur public, les haras nationaux, un parc naturel régional, c'était juste avant que je reprenne la ferme. Également dans le secteur privé, j'étais directeur adjoint d'une très grosse coopérative, j'étais directeur d'un bureau d'études qui vendait de l'irrigation et du drainage. Donc des activités très riches, multiples, la découverte aussi de l'agriculture des pays du Sud qui m'a beaucoup appris. Je pense que je suis vraiment devenu agronome quand je suis allé dans les pays du Sud, c'est ça la vérité. Et à 40 ans, enfin à l'aube de mes 40 ans, mon père qui dit ben voilà, je suis âgé maintenant, je voudrais bien prendre ma retraite, et qui avait d'ailleurs identifié un repreneur qui n'était pas du tout ses enfants, parce que j'étais haut fonctionnaire, j'avais quand même un poste qui était super intéressant. Mon frère était journaliste, c'est pareil, il n'était pas forcément attiré par la reprise. Enfin, mon père pensait qu'il ne serait pas forcément attiré par la reprise, et en réalité, on s'est dit, mon frère et moi, que c'était le moment pour nous de reprendre la structure familiale. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de partir de cette situation d'une agriculture productiviste, intensive, industrielle, et faire la démonstration qu'en explorant les trois piliers du développement durable, que ce soit le pilier social, le pilier économique ou le pilier écologique, on pouvait réussir, en partant de là, à atteindre des niveaux élevés de satisfaction du développement durable. et tordre le cou à cette idée que on ne peut pas changer du jour au lendemain, il faudra du temps pour porter les changements, faire la démonstration que quand on agrège des solutions qui font référence à l'agroécologie et qu'on en agrège plusieurs qui sont complémentaires, on peut faire une transition très rapidement et que cette transition-là apporte des réponses immédiates. Et le mot immédiat est important sur la dimension écologique, sur la dimension sociale et sur la dimension économique. Et ça évite de prolonger cette agonie-là des agriculteurs qui pensent que la transition doit être douce et qui donc prolongent dans des solutions partielles des situations qui sont difficiles à vivre pour eux, qui sont pas satisfaisantes sur les entrées écologiques et sociales et qui donc télescopent le message qu'on peut complètement changer d'agriculture. Et donc moi, ce que je voulais démontrer, j'allais dire, c'est que justement, en portant des solutions ambitieuses, on peut faire un basculement assez rapide et qu'apporte des réponses, y compris économiquement parlant, puisque l'entreprise de mon père était pas très florissante, en tout cas était en difficulté quand il me l'a cédé. Et la démonstration qu'on a pu faire, c'est que non seulement on a corrigé le tir, mais qu'en plus j'ai pu supporter un endettement très élevé par rapport justement à la reprise de cette entreprise-là. Et voilà, c'est ma satisfaction. J'avais des certitudes, c'est pas le mot, mais la conviction que c'était possible. Et c'est un peu ce que je relate. C'est les 10 premières années de cette vie de transition, de révolution agricole sur ma propre ferme, dans le bouquin qui s'appelle Paysan Résistant, pardon, et qui a été publié par les éditions Fayard en février 2018. Quand je reprends la ferme, justement, et c'est pour ça que j'ai parlé de ça tout à l'heure quand je parlais de mes grands-parents, c'est que cette partie de marais que mon père ne pouvait pas justement valoriser en monoculture de maïs, il l'a complètement abandonné, il l'a cédé même. Et finalement, moi, dans cette recherche de complémentarité, j'ai eu besoin de retrouver des espaces de marais qu'on m'a proposé, j'ai même pas eu besoin d'aller les chercher, on me les a proposés. C'est le paradoxe d'ailleurs de mon parcours, c'est que moi je dis qu'il vaut mieux plusieurs petites structures qui installent plusieurs agriculteurs que des grosses structures avec des salariés. Sauf que j'ai été confronté à une situation, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça, où finalement les propriétaires de terres qui étaient des enfants ou des petits-enfants d'agriculteurs et qui avaient hérité de terres de leurs parents ou leurs grands-parents, qui eux-mêmes n'étaient, donc eux, ils n'étaient plus agriculteurs, et qui, me voyant fonctionner sur ma propre structure, ont congédié leur fermier et sont venus me voir en me disant « Voilà, nous, on a mis le fermier dehors, en gros, et nous, on veut que tu fasses chez nous ce que tu fais chez toi. » Et ça m'a amené à grossir ma structure d'une centaine d'hectares, un peu plus de 100 hectares, en 10 ans. Donc, quand on décide de produire sur des solutions basées sur la nature, on identifie ce qui nous empêche ces solutions basées sur la nature. Et là, on tombe vite sur les substances de synthèse, les pesticides, les engrais. Et donc là, moi, je dis, il faut que j'arrête ça. Sauf que, en arrêtant ça, alors on est tout de suite éligible au cahier des charges à l'agriculture biologique et donc on peut se faire certifier bio. Et c'est pas ça ma démarche. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas d'être certifié bio, c'est vraiment de trouver des réponses alternatives à l'usage des pesticides et des engrais de synthèse de manière à ce que le modèle soit efficace. Et donc, comment on fait ? Eh bien, je commence par planter des arbres, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Je plante des arbres tous les 25 mètres dans mes parcelles. Là, je suis sur du bois d'œuvre, donc alisier, cormier, érable, merisier, dont la finalité, c'est de faire du bois d'œuvre. Donc ça, c'est une première réponse qui donne des réponses par rapport à l'usage de l'eau, qui donne des réponses par rapport à l'hébergement de ces solutions basées sur la nature et ce qu'on appelle les auxiliaires c'est de ça. L'agriculture.
Donc, c'est-à-dire des insectes qui ne sont plus des ennemis, on va recréer c'est un ça. Écosystème qui reste moins
c'est
fragile.
C'est le mot-clé. On recrée un écosystème en équilibre. Donc j'ai arrêté le labour pour éviter de perturber le sol, donc je suis en semi-direct autant que faire se peut. J'utilise des ressources génétiques anciennes et locales, donc je n'utilise plus la ressource génétique qui est imaginée par les semenciers, qui certes est très productive, mais elle est très productive si on y apporte des pesticides, des engrais de synthèse et de l'irrigation.
Ils vendent de le package.
Exactement. C'est-à-dire alors que moi je m'appuie sur la rusticité de ces espèces-là et je les associe entre elles. C'est-à-dire
et,
que.
Et t'as de bons rendements.
Bien sûr, parce que justement, je les associe entre elles. C'est-à-dire que moi, quand je rentre à la moissonneuse-batteuse au moment de la récolte dans un champ, j'ai deux graines dans la trémie et l'association de ces deux cultures qui sont complémentaires font que finalement...
C'est quoi du coup que tu
mets? J'ai plusieurs mélanges que j'aime bien. Je mélange de la févrole avec du blé, je mélange des lentilles avec de l'épeautre, des lentilles d'hiver avec de l'épeautre, des lentilles de printemps avec de la cameline, de l'orge avec des pois verts pour faire des purées de pois cassés.
Et on peut tout ramasser ensemble.
Bien sûr, c'est-à-dire que... Mais c'est ça finalement aussi l'agroécologie, c'est anticiper. C'est-à-dire qu'on associe des plantes dont le cycle de végétation s'accompagne, où la maturité arrive au même moment, et où on sait que quand on va mettre la moissonneuse batteuse, on aura la possibilité de la régler pour conserver les deux graines dans la trémie. Et après, c'est ce que j'appelle...
Et l'avantage, c'est que la févrole va amener de l'azote.
De l'azote, c'est ça. La févrole amène de l'azote.
Elle va fixer de l'azote atmosphérique.
Qui va nourrir le blé. Qui va nourrir le blé qui est à côté. C'est la même chose avec la lentille et l'épeautre. C'est la même chose avec le pois et l'orge, par exemple. Enfin, voilà. Et donc, on a des espèces qui s'accompagnent. Et par exemple, quand je sème de l'épeautre avec de la lentille, je sais aussi que mon épeautre va être le tuteur de ma lentille pour éviter que la lentille à maturité s'effondre et que je puisse la récolter. Donc, voilà, c'est des associations comme ça. Mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'elles ont des caractéristiques qui sont parfaitement complémentaires et qui soutient la productivité des deux espèces, et qui fait que quand on regarde les surfaces nécessaires pour obtenir la même productivité dans des cultures spécialisées comme le font en conventionnel, où il n'y a pas de mélange de cultures, et les surfaces dont j'ai besoin pour atteindre les mêmes niveaux de productivité avec un mélange de cultures, et bien finalement on est sur des surfaces équivalentes, voire même inférieures en besoin pour atteindre ces objectifs-là. Mais je tiens à insister sur le fait que il faut apporter toutes les solutions en même temps pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va juste faire du mélange de culture et ça va être merveilleux. Il faut apporter une réponse mélange de culture, sans labour du sol, avec de la ressource génétique ancienne et locale, dans un système agroforestier. Et c'est ça qui permet de soutenir un rendement qui rivalise avec l'agriculture qui utilise massivement des pesticides et des engrais de synthèse. Sauf que là, on satisfait d'autres enjeux. On satisfait bien sûr l'enjeu de production alimentaire, c'est pas contestable, mais on satisfait aussi l'enjeu de l'entretien d'une biodiversité nettement plus riche, dont on a besoin pour entretenir cet écosystème agricole qui est notre partenaire de réussite. On entretient des logiques qui vont dans le sens de l'atténuation du changement climatique, alors que l'agriculture est incontestablement victime du changement climatique, mais elle en est aussi coupable. Mais elle peut apporter des solutions, et ce que j'apporte comme réponse sont des solutions au changement climatique. Et puis moi, il y a un sujet que je ne peux pas occulter, c'est la santé. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut continuer à soutenir avec de l'argent public, et ça va peut-être faire la transition, soutenir avec de l'argent public une agriculture qui nécessite qu'on répare tous ces enjeux de santé avec de l'argent public. Et donc on doit intégrer cette approche-là et éviter que l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange... soit dans des logiques qui menacent la santé de ceux qui la mangent. L'eau, c'est un bon exemple parce qu'il est quantifié. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on est, quand on a peu de revenus, dans l'obligation d'aller chercher les produits peu chers. En vérité, quand on agrège à ce coût du produit pas cher les coûts externalisés des réparations, moi j'appelle ça des réparations, des dégâts causés par cette agriculture, on se retrouve dans des chiffres qui sont même affolants. Et on a un rapport de la Cour des comptes qui date d'octobre 2011 qui quantifie le poids de la dépollution de l'eau potable souillée par des pollutions agricoles. Et ce rapport ne parle que des pollutions agricoles, qui quantifie ce volume à entre 54 et 91 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que si moi je...
Pour la France.
Pour la France, bien sûr. Que je compare toujours à l'enveloppe dédiée à la politique agricole commune qui est autour de 11 à 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a un coût de dépollution qui coûte entre 5 et 9 fois plus cher que l'argent public qu'on donne déjà aux agriculteurs via la PAC. Et c'est ça qui est redoutable. C'est-à-dire que quand on regarde ce que coûtent vraiment ces produits pas chers, en vérité, ils ont un coût exorbitant. Et l'exemple que je prends, et qui est très parlant, c'est l'exemple de la laitue. Parce qu'une laitue issue de l'agriculture biologique qui n'a pas utilisé de pesticides et d'engrais de synthèse et qui nécessite donc pas de retraitement de l'eau, coûte environ 1 euro sur le marché quand on fait son marché. La même laitue issue de l'agriculture conventionnelle chez le producteur voisin va coûter 70 centimes. Sauf qu'à cette laitue de 70 centimes, quand on y agrège tous ces coûts externalisés, en fonction des zones de production, on atterrit sur une laitue qui coûte entre 17 et 27 euros la laitue. Donc moi je pose la question très franchement, est-ce que ces produits, est-ce qu'on a, on a encore les moyens de se tourner vers ces produits pas chers, quand en vérité ils nous coûtent, via la pression fiscale nécessaire pour réparer les dégâts de ces productions-là, entre 17 et 27 euros. Moi, la question que je pose très clairement, est-ce qu'on a encore aujourd'hui les moyens, en 2020, de payer des laitues entre 17 et 27 euros la pièce ?
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé, le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenez. Sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et c'est l'espoir revenez, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait.
Comme toutes mes productions végétales sont dédiées à l'alimentation humaine, j'ai des zones prairiales qui hébergent les élevages, parce que je nourris, alors ça c'est de la révolution, je nourris des herbivores avec de l'herbe.
C'est
formidable,
bien.
Formidable. Ce qui permet, là encore une fois, on a une
masse. Sans complément en céréales ?
Bien sûr, zéro. Que de l'herbe, du foin en hiver, de l'herbe avec leur bouche au printemps et en été.
Géré en zone naturelle.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je pâture sur une réserve naturelle, mais qui en plus permettent de produire du lait et de la viande d'extrêmement bonne qualité, ce qui n'est pas le cas du lait et de la viande qui sort de vaches ou d'herbivores, peu importe.
Et là, au-delà du prix, C'est-à-dire qu'un litre de lait qui vient de chez toi par rapport à un litre de lait industriel, la qualité nutritive, chers amis, n'est pas la même. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, j'utilise que des... C'est la même logique avec les végétaux, que des races locales et anciennes. Donc, pour les vaches, vaches maraîchines, pour les chèvres, chèvres poitevines. J'utilise du baudet du Poitou et du cheval de Trépoitevin également pour entretenir les espaces prairiaux, ce qui me permet d'entretenir la productivité de ces espaces parce que je les associe avec des vaches ou avec des chèvres. Et puis j'ai un petit atelier de volaille, de poules pondeuses avec des poules de Marans qui pond l'œuf extra roux que la reine d'Angleterre adore d'ailleurs. Voilà. Mais qui a un œuf, les industriels ils appellent ça un œuf alternatif.
L'Europe est assez ambiguë puisque c'est quand même elle qui a légiféré énormément pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et à la fois, c'est aussi là que les plus gros, que tous les lobbies sont, et que se prennent des décisions qui sont contraires à ce qui est prôné par ailleurs. C'est-à-dire, on a souvent des décisions un petit peu contradictoires et qui peuvent s'annuler pour arriver au statu quo.
Ce qui s'est passé depuis le début de ce mandat, où on a eu un gros turnover de députés, hein, 75% de l'Assemblée européenne a été renouvelée en 2019. Donc on a une nouvelle équipe au Parlement européen. Et est apparue très vite, en 2019, cette prise de conscience sur l'urgence climatique. Donc on a voté l'état d'urgence climatique à la fin de l'année 2019. Et puis, au début de l'année 2020, pour enfoncer le clou, on s'est entendu sur des stratégies autour de ce qu'on appelle le Green Deal, hein, donc le défi vert, on va dire ça comme ça.
Alors le Green Deal, c'est moins 50% de pesticides, moins 20% d'engrais, plus 25% d'agriculture biologique.
Donc ça c'est des actes forts qui apparaissent dans le débat, dans le débat au sein du Parlement européen. Arrive aussi cette crise sanitaire, parce qu'il faut en parler, c'est ce que on met les choses en perspective. Et donc là, on a tous les indicateurs au rouge, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour la souveraineté alimentaire. On peut aussi parler du revenu des agriculteurs, qui est quand même pas au beau fixe. Et en même temps, on nous propose de prolonger la future génération de la PAC sur les mêmes ressorts que celle qu'on connaît et qui a provoqué tous les désastres que je viens de... On est toujours poursuivi par ce vieux ratio qui était déjà là en 1789 au moment de la Révolution, des 80-20. C'est-à-dire que 80% de l'enveloppe de la politique agricole commune est aujourd'hui perçue par 20% des agriculteurs.
Y compris la reine d'Angleterre, enfin, qui va plus l'avoir avec le Brexit.
Et le prince
de Monaco.
Mais si, parce qu'elle a des terres en France. Elle va être éligible sur ces structures en France. Et le prince de Monaco, bien sûr, la plus grosse enveloppe PAC en France, c'est un gros riziculteur de Camargue. Donc on a effectivement des enveloppes qui sont colossales et qui sont captées par une minorité. Mais ça veut dire en creux que les 80% autres agriculteurs doivent se contenter que de 20% du gâteau. Donc on voit bien...
Petit agriculteur vertueux qui fait quelque chose en lien avec la population locale, en lien avec son environnement, lui touche les
peanuts. C'est l'oublié de la distribution, c'est clair et net. Et donc, ce que moi j'essaie de faire dans cette discussion autour de la PAC, c'est d'inverser cette tendance et de faire en sorte qu'on casse les mécaniques qui amène à ces incohérences-là, qui fait qu'on a perdu 50% des agriculteurs ces 20 dernières années, que les agriculteurs qui restent en activité pour un tiers d'entre eux vivent avec moins de 350 € par mois, et qu'on n'arrive pas à remplacer les agriculteurs qui partent à la retraite, c'est-à-dire qu'on a une politique de l'installation qui est désastreuse, une politique de l'emploi en agriculture qui est désastreuse, et il faut casser ces logiques-là. Et pour casser ces logiques-là, il faut poser des grains de sable dans la mécanique. Et donc moi, ce que je propose dans cette nouvelle PAC, c'est de sortir de la distribution des aides par unité de surface, qui fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, et plus on a d'aides, plus on achète d'hectares. Et donc là, c'est ce qui conduit les agriculteurs à se bouffer entre eux. C'est une forme de cannibalisme, quelque part. Et avancer vers des logiques où on distribue ces aides publiques par unité de main-d'œuvre, c'est-à-dire en fonction de la présence de travail humain. Ce qui débloquerait le foncier, puisque si le foncier n'est pas accessible aujourd'hui, c'est parce que ceux qui veulent accéder au foncier sont bloqués par le fait qu'il y a des rentes d'argent public derrière chaque hectare, et donc comme il y a des rentes d'argent public, ceux qui possèdent le foncier ne le lâchent pas pour continuer de toucher l'argent public.
Et puis ceux qui en ont beaucoup sont ceux qui peuvent en prendre le plus.
Et exactement, et donc il n'y a plus de possibilité de construire une politique d'installation. Et donc si on arrête ça, il n'y a plus de raison que ces gens-là bloquent le foncier, et donc on libère le foncier. Et si en plus on distribue des aides à chaque fois qu'un nouvel emploi arrive sur une structure, on est sur une vraie politique de l'emploi, sur l'agriculture, avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui aspirent à ce retour à la Terre et donc on construit tout à fait une autre logique de développement. Et sur le deuxième sujet...
Et là tu trouves des alliés pour tout ça.
Bien sûr, et notamment les pays de l'Est. C'est-à-dire que les pays de l'Est, où on a encore une forte population rurale tournée vers les activités agricoles, voient bien que ces mécaniques par unité de surface sont en train de reproduire chez eux les mêmes désastres que ce que nous, on a vécu dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Et donc les pays de l'Est disent stop au massacre, et on l'a vu avec le Covid, où les agriculteurs des pays de l'Est venaient travailler sur les structures françaises pour produire des tomates ou je ne sais quoi, et pour voir ces tomates réapparaître dans les supermarchés en Roumanie ou en Hongrie ou en Pologne, alors que si on les avait gardées sur ce territoire-là, ils auraient pu produire leurs propres tomates. Donc ils ont compris ces mécaniques, et la crise sanitaire a participé à cette prise de conscience, et ça nous aide aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce sujet-là. Et effectivement, aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire bouger fondamentalement les lignes de la PAC, c'est que ces lobbies-là sont très puissants auprès des formations politiques qu'on appelle libérales ou conservatrices, et qui malheureusement représentent la majorité. Alors après, moi, je peux pas m'empêcher d'envoyer un message politique. C'est-à-dire que ceux qui veulent qu'on renverse la table, il faut qu'au moment où on les consulte, quand il y a une consultation publique, ce qui s'appelle un vote, il faut qu'ils aillent voter. Sauf que quand je regarde ce qui s'est passé en France aux européennes, 23% des électeurs ont choisi des députés européens Front National, 22% ont choisi La République En Marche, et nous, qui sommes en capacité de renverser la table avec un logiciel que je viens d'essayer d'expliquer, on a obtenu que 13% des voix, 13,5%.
Pour expliquer un petit peu quand même comment fonctionne tout ça, je suis allé sur ta page Facebook avant de venir. Taxe sur les transactions financières, donc la taxe Tobin dont on a entendu parler. Taxe carbone aux frontières de l'Europe. Taxe plastique, taxe pour les GAFA, tout ça, le Parlement l'a voté, c'est super.
C'est inédit.
Ben c'est super, c'est des choses qui étaient attendues. José Bové se battait pour ça au début des années 2000, pour la taxe Tobin. C'est des choses qui peuvent amener des ressources financières énormes. La taxe carbone aux frontières, ça veut dire que des produits européens redeviennent compétitifs par rapport à des produits qu'on fait venir de loin et qui en plus sont mauvais évidemment pour le climat. Tout ça, ça va dans le bon sens, mais...
Le fonctionnement de l'Union européenne fonctionne sur trois pieds, on va dire. Le Parlement européen qui rassemble les députés, qui est l'Assemblée que moi je qualifie démocratique. La Commission, où là on a plus affaire à des technocrates qui sont là pour imaginer l'avenir de l'Europe, et qui ont un poids dans les politiques européennes. Et le Conseil qui rassemble les 27 États membres, leurs chefs d'État ou leurs ministres en fonction des sujets.
C'est aussi démocratique, et il ne faut donc pas non plus se tromper à ce moment-là.
C'est ça,
à ce vote-là.
C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à quel président de la République ou quel ministre de l'Agriculture, si on parle de la politique agricole commune, on va envoyer au moment de la discussion du Conseil. C'est donc ça. Il ne faut pas se tromper. Et donc, c'est la validation d'une politique européenne passe par ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire l'harmonisation des doléances et des volontés de ces trois piliers de la décision à l'échelon européen. Donc là, on a passé une étape importante, c'est celle de la démocratie, c'est celle du Parlement européen qui décide qu'on doit sortir des logiques où l'Union européenne fonctionne qu'avec les budgets que leur consentent les États pour faire vivre l'Union européenne, et s'appuie sur des ressources propres, pardon, qui s'appuient sur les cinq taxes que tu as évoquées. Ça, c'est démocratiquement une avancée historique. Maintenant, il va falloir la validation par ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le moment où les trois assemblées décident de le valider. Mais sur le blocage que pourrait faire le Conseil, moi, ce serait se tirer une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui...
Tu penses que les planètes sont alignées là pour que ça
arrive ? Oui, parce que les États disent que c'est parfois lourd. Certains sont contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils donnent plus que leur renvoie l'Union européenne. Et donc, ce mode de fonctionnement où l'Union européenne fonctionne avec le budget que leur consentent les États va s'atténuer. C'est-à-dire que si l'Europe a réellement des ressources propres, on sera forcément dans des logiques où on sollicitera moins les États. Et quand les États viendront à la discussion avec l'Union européenne, ce sera du bénéfice net parce que ça viendra de budgets qui ne sont pas les budgets qu'eux ont mis sur la table. Et donc... Moi, je suis un optimiste.
Mais vous attaquez au gros, parce que quand même, GAFA et la finance...
Oui, mais si c'est validé par le trilogue, c'est une avancée historique. Et moi, j'y crois un peu, je suis un optimiste.
Il faut.
Je pense que les États qui, aujourd'hui, pour certains, se plaignent du poids de leur contribution pour l'Union européenne, si ça participe à réduire le poids de leur contribution, et que quand ils viennent taper à la porte de l'Union européenne, c'est de la ressource nouvelle qui vient s'inscrire sur le développement d'un pays ou d'une région, c'est quand même tout bénef. Et je pense que ça, ils vont l'entendre.
Et on va rester sur cette note optimiste. Un nouveau monde s'ouvre à nous, en même temps qu'une crise, malheureusement.
Absolument.
Mais c'est là que tout devient possible. Merci Benoît Biteau.
Merci, c'est un plaisir.
Alors Biteau, ça s'écrit B-I-T-E-A-U. On vous conseille de vous trouver des ressources sur Internet. Et on conseille évidemment la lecture de ton livre qui s'appelle Paysans résistants aux éditions Fayard et qui a été édité en 2018. Merci Benoît Biteau.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était L'Ours et la Carotte. Écoutable sur Internet.